Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible sur une page, dans une page de l'Évangile de Luc. Alors, c'est un texte que vous connaissez bien, mais je voudrais lui donner une petite amplification avec d'autres recoupements sur, ce que nous apporte aussi le Nouveau Testament, prolongement finalement de l'Évangile de Luc, chapitre 5. Et nous allons donc ouvrir cette page dans le chapitre 5 et au verset 4, si vous voulez bien. Alors, je rappelle, Luc, chapitre 5, verset 4. C'est une histoire qui nous est rapportée d'une rencontre et d'un appel. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Voilà, c'est bien connu, hein. C'est un passage qui nous est familier, on l'a commenté, dit et redit, et j'aimerais lancer cette réflexion sur une parole d'obéissance, de foi, de confiance de Pierre, qui dira à Jésus, tout simplement, viens sur ta parole, je ferai ce que tu nous demandes, ce que tu me demandes. Alors, on remet les choses dans le contexte. La scène se situe dans le nord d'Israël, le lac de Génézaret, lac de Galilée, appelé différemment. Et il nous est raconté que ce jour-là, il y avait une foule nombreuse qui se pressait autour de Jésus. Et les gens étaient venus avec un mobile et une motivation tout à fait particulière. C'était pour entendre la parole de Dieu. C'est formidable. Et c'est toujours très encourageant parce que souvent, les contemporains de Jésus venaient s'approcher de Jésus pour voir ses miracles. Mais il n'y a de miracle que si on entend sa parole qui donne la foi. Et là, ils prennent les choses dans le bon sens. Alors, à un moment donné, il nous est simplement rappelé, et je ne l'ai pas lu, mais on peut le dire, il nous est dit que Jésus a posé ses yeux sur deux barques qui étaient là, sur le rivage, et il s'est aperçu qu'il y avait des pêcheurs qui étaient en train de travailler. Ça ne veut pas dire que les pêcheurs, tout en travaillant, n'écoutaient pas Jésus. Et certainement, avec l'eau qui porte la voix, eh bien, ils étaient certainement très rapprochés de celui qui parlait, enfin de Jésus. Et ils étaient là, tout simplement, en train de faire ce que les pêcheurs font. À un moment court aujourd'hui, là, refaire les filets qui sont endommagés, et puis les laver, etc. Alors, simplement le texte qui précédait, que nous n'avons pas lu, il nous est simplement rappelé qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon-Pierre, qui va devenir l'apôtre que nous connaissons, et Jésus s'est adressé à Pierre et lui a dit, « Écoute, voilà, j'ai parlé, tu as entendu, tout le monde a entendu, maintenant, je voudrais faire une démonstration de ce que Dieu m'a donné comme mission, c'est-à-dire prêcher l'évangile, prêcher la parole du royaume, mais également confirmer cette parole en manifestant le surnaturel et le miraculeux de Dieu, celui qui descend du ciel. » Alors, il nous a dit qu'il est monté, Jésus est monté dans l'une de ses barques, et il a demandé à Pierre de s'éloigner un petit peu, de prendre un peu de distance, et là, il a enseigné tout simplement la foule. Et sur ces entrefaites, nous voyons que Jésus, a demandé à Simon-Pierre d'avancer en pleine eau, confirmation de la parole entendue, c'est ce que nous disions il y a un instant. Et puis, vous allez jeter les filets pour faire ce que vous avez l'habitude et ce que vous savez faire. Or, Pierre, à ce moment-là, va avoir une réaction toute humaine et tout à fait naturelle. Il va lui dire, mais nous avons travaillé toute la nuit, et tu me demandes encore de ressortir, alors que pertinemment, on sait très bien que les meilleures pêches se font la nuit, dans l'obscurité, quand tout est calme, que la terre est endormie, et tu me demandes maintenant de faire ce que nous avons fait déjà toute la nuit. Nous sommes harassés, nous sommes fatigués, nous venons encore avec grand peine de finir, de laver, de raccommoder nos filets, et maintenant, tu me demandes de travailler encore. Tu me fais faire des heures supplémentaires, en quelque sorte. C'est un terme très connu aujourd'hui. Voilà. Mais, à ce moment-là, et c'est très intéressant de le prendre en compte, nous voyons que Pierre va dire, pour se défendre, mais nous avons rien pris, c'est une catastrophe. Mais il va se ressaisir et il va lui dire, mais tout simplement, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'est intéressant. Vous avez remarqué que Jésus avait dit les filets au pluriel. Pierre, peut-être hésitant, mais croyant quand même, je jetterai le filet. Je voudrais simplement signaler le fait que, et ça c'est vrai pour nous aujourd'hui, c'est vrai dans toutes les situations, non pas seulement dans le contexte que nous saisissons dans ce récit, mais les plus grandes bénédictions, il faut le dire, sont souvent sur les mers agitées. Là où nous sommes préoccupés, la préoccupation c'est qu'il n'avait rien pris. La préoccupation c'est qu'il n'avait pas de revenus pour nourrir sa famille, Pierre, et puis ses associés. On pourrait appeler ça des mers agitées. Ils étaient quasiment dans le chômage, on pourrait peut-être dire cela, parce que quand ça se reproduit une nuit ou plusieurs fois à répétition, ça devient très préoccupant. Et je voudrais simplement élargir un petit peu la pensée. C'est vrai que les grandes bénédictions que nous allons voir, que nous allons découvrir et commenter, c'est souvent quand nos mers sont agitées, quand nos espaces, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, lorsque nous sommes mal pris. Là, c'est un cas particulier, mais ça peut être la santé, ça peut être différentes choses. Et il y a aussi des agitations à ce moment-là qui sont liées, comme la condition de Pierre, comme peut-être nos conditions à nous, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des agitations et des mers agitées dans nos cœurs et dans nos pensées. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ce sont des soucis, ce sont des inquiétudes, parfois ça peut être de l'anxiété qui va jusqu'à l'angoisse. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous travaillons et nous n'avons pas le fruit de notre travail. Nous sommes en mauvaise santé et nous ne pouvons plus travailler. Nous avons perdu telle et telle chose. Nous sommes démunis. Et ça, je peux vous dire que si le lac était peut-être tranquille ce soir-là, ou cette journée-là, en tous les cas, le cœur de Pierre et de ses associés, de tous ceux qui étaient là et qui vivaient de la pêche, était probablement aussi dans une agitation. C'est ce que Jésus nous enseigne. Et je crois que pour tester réellement la foi, parce qu'on peut toujours dire « j'ai la foi », je crois, je sais que des centaines et des centaines de fois, le Seigneur m'a répondu, il a exaucé mes prières. Mais à chaque fois, c'est toujours nouveau, vous comprenez? À chaque problème ou à chaque situation, comme dans cette journée-là, rencontre entre Pierre et Jésus, c'est toujours quelque chose de nouveau qui nous déconcerte. Et on se dit « bon, on s'en est bien sorti déjà, on a vu la main du Seigneur, mais quand ça se renouvelle et que… » Encore une nouvelle fois, nous devons faire, tout simplement démonstration de notre confiance en Dieu. La partie est toujours remise. C'est toujours ça. Moi, je ne sais pas comment vous réagissez, mais pour tester réellement notre foi, quand rien de ce que nous avons essayé, ils avaient essayé de pêcher toute la nuit, ils n'avaient rien pris, que ça n'a pas fonctionné, alors c'est tout simplement Dieu qui nous pousse à aller jusqu'aux limites inconnues. Jusque nous pouvons aller en faisant confiance à Dieu, même si nous sommes fatigués, même si nous sommes désabusés, même si nous n'avons rien pris, ce que nous avons fait comme travail n'a pas abouti, Dieu nous dit, avance en pleine eau quand même. C'est quelque chose. En pleine eau, il nous a dit que il s'est tourné vers Pierre, Jésus, il lui a dit, mais maintenant, éloigne-toi du rivage, et puis nous voyons que dans un premier temps et dans un certain espace, Pierre s'exécute, il prête sa barque, il est certainement avec Jésus dans la barque, il est bien placé pour l'entendre de toute façon, mais une chose qui est certaine, c'est que il va devoir attendre un certain temps parce que Jésus va enseigner avant. Comprenez? Alors, c'est vrai que quelquefois nous sommes sur des limites inconnues pour découvrir encore une fois, eh bien, ce qu'est la confiance en Dieu. Et c'est toujours différent, d'une manière ou d'une autre. Hein, on en arrive quelquefois à dire, ah ben, je m'en sortirai, je sais comment ça se passe, mais c'est jamais pareil de toute façon, quoi qu'il en soit. Et surtout quand on est déçu, quand on est désillusionné et qu'on n'en a plus envie. Et pourtant, Dieu nous dit, avance en pleine eau, jette ton filet, mais avant, il faut que tu entendes la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui donne la foi. Et qu'il a tout à nouveau, dans une situation inédite, une situation inattendue, je ne sais pas tous les jours qu'il y avait un prédicateur, qu'il y avait Jésus sur le bord du lac qui se trouvait là. Je pense que Pierre avait déjà entendu parler de lui, vaguement peut-être, mais en tous les cas, on disait de lui, on disait de Jésus, mais c'est un homme qui vient de Dieu. C'est peut-être le Messie. C'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, qui est capable de guérir les malades et puis de faire aussi dans la nature toutes sortes de choses. Donc, on peut s'imaginer un peu les choses et c'est vrai aussi pour nous. L'homme n'a pas changé, l'humanité est toujours la même. Les hommes d'il y a 2000 ans, comme les hommes d'aujourd'hui, nous sommes confrontés où Dieu nous dit « avance en pleine eau ». Va un peu plus loin, Seigneur, non, je peux pas parce que j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais ce qui ne marche pas avec nous, ça marche avec le Seigneur. Et le Seigneur a besoin de notre foi pour que ça marche. C'est tout. Et de croire encore, même si nous avons péché toute la nuit, excusez-moi, hein, péché, comprenez ce que je veux dire. Hein. c'est pas des choses que l'on fait d'une manière nocturne et malhonnête. Non, c'est pas ça, péché, c'est vraiment la pêche. On a bien compris ce que ça voulait dire. Aux limites de notre foi. Et c'est souvent, finalement, quand nous sommes au bout, quand nous sommes à bout, au petit matin, après tous les efforts vains que nous avons déployés, que Dieu nous demande, voilà, encore une fois, eh bien, fais-moi confiance. Vous savez, ça nous rappelle, en le disant, j'y pense, mais ça nous rappelle quand même l'homme qui était paralytique depuis 38 ans. Quand on est paralytique depuis 38 ans, il y a de quoi quand même s'habituer à notre situation, hein, ou à sa situation. Et pourtant, à cet homme qui était malade, paralytique, depuis 38 ans, Jésus va lui dire, ah, quelle question saugrenue, veux-tu être guéri? Vous vous rendez compte, quand on est malade depuis 38 ans, il l'a attendu des jours et des nuits à sa guérison, 38 ans de maladie. Et c'est là où Jésus va sortir cette phrase, mais veux-tu encore être guéri? Veux-tu être guéri? Enfin, c'est comme ça. Alors, un choix s'impose dans notre texte, soit douter, non Seigneur, j'y vais pas. Moi, je crois que là, tu te trompes, toi le prédicateur de passage, tu connais pas la pêche, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est de passer une nuit, puis de revenir, il n'y a pas un poisson dans les filets. Ou alors, tout simplement, de dire les paroles que je qualifierais d'hardies, de pierre, sur ta parole, je jetterai, excusez-moi, quand même, malgré tout, malgré mes impressions, malgré mes sentiments, malgré l'harassement d'une nuit où je n'ai rien pris, je n'ai rien fait, eh bien, je jetterai le filet. À travers ce que nous disons ce soir, Dieu a trois révélations tout simplement à nous faire. La première, c'est que Dieu se sert de l'ordinaire, tout simplement pour nous révéler l'extraordinaire et l'exceptionnel. Parce que quand même, moi ça m'est arrivé quand j'étais un petit peu plus jeune d'aller à la pêche, mais j'ai jamais fait une pêche comme celle-ci. Premièrement, j'avais pas de barque. Et puis combien de temps j'ai attendu, et de rien ramener à la maison, surtout que le poisson je le mange pas. Mais bon, c'est histoire de se décontracter. Alors, et ça apprend la patience d'aller à la pêche, vous savez. Quand vous êtes au bord de l'eau, vous voyez, là, dans un milieu très bucolique, ça fait du bien. Mais enfin, quand même, on aime bien prendre un peu de poisson. Hein. Bon, enfin, c'était des poissons suicidaires, hein, ceux qui ont mordu à la ligne. Oui, ils ne voulaient plus vivre, hein, ça c'est sûr. Mais toujours est-il que la première révélation que Dieu nous fait, c'est que finalement, il va nous montrer que lui est le maître de l'extraordinaire, du surnaturel. Même quand plus rien ne fonctionne, tout est arrêté. Et, tout simplement, ne soyons pas étonnés, après la banalité, après la vanité, après que finalement rien ne s'est passé, la médiocrité peut-être de nos actions, ne soyons pas étonnés quand il nous surprend tout à coup. C'est ce qui s'est passé pour parce qu'il s'y attendait pas. Prête-moi ta barque. Pierre lui prête sa barque. Il écoute, là, Jésus parlait. Je sais pas combien de temps il a parlé. Peut-être peut-être moins que moi, hein, c'est possible, mais toujours est-il que à un moment donné, Pierre, après le discours de Jésus, va entendre le maître lui dire, eh bien maintenant avance en pleno, et jette tes filets, tout simplement. Ça, c'est l'inattendu, parce qu'il s'attendait certainement pas à ça. Pierre se disait, bah, on va revenir, il a fait ce qu'il avait à faire, moi je suis content de lui avoir prêté ma barque, et puis maintenant tout le monde va se disperser. Non. Moi, je crois que Jésus avait vu que Pierre était un homme de foi, un homme qui cherchait quelque chose, et un homme qui avait un fond spirituel. On peut dire ça. Une foi spirituelle, c'est pas une foi superstitieuse ni religieuse. Hein, faut pas confondre. Et il va le surprendre. Jésus va surprendre. Hein. Et à la place des filets vides, il va y avoir des filets pleins. C'est ça la question. Mais comment ça peut se faire? Il avait l'habitude d'avoir les filets vides, hein, le pauvre Pierre. Et là, il prend cet homme qui s'appelle Jésus dans sa barque et jette de ce côté-ci, jette de ce côté-là. Pierre s'exécute avec un filet et là, quand il ramène, c'est extraordinaire puisque il nous a dit qu'ils prirent une grande quantité de poissons à tel point que le filet allait se rompre. Et quand Pierre a vu ça, il a dit à ses camarades, après coup, que c'était au pluriel, les filets venaient et il nous a dit que tout était complet. Jamais ils avaient fait une expérience pareille. Jamais dans leur existence, certainement de pêcheurs, de poissons, ils n'avaient vécu une chose semblable. Mais c'est ça ce que le Seigneur veut nous montrer. Parce que quelquefois, on peut tourner en rond dans notre vie, et puis, bon, ben voilà, on fait ce qu'on a à faire. Il y a des petits bénéfices, des petits profits, des trucs, mais tout est petit. Mais avec le Seigneur, c'est pas petit, c'est grand. C'est immense. C'est inattendu, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est le miracle de Dieu. Alors il faut que nous soyons disposés aussi à voir le miracle de Dieu si nous l'attendons. Parce que si on ne l'attend pas, on ne le verra pas. Et non seulement de l'attendre, mais de l'attendre avec confiance. Et d'obéir au Seigneur. Vous savez, quand Pierre, Jésus lui dit, ben voilà, maintenant tu fais ceci, il le fait. Il le fait peut-être en réduisant la compréhension de l'ordre de Jésus. Mais néanmoins, il fait quand même. Et puis le Seigneur est bon, hein, parce que le premier filet, ça passait de tous les côtés, hein, tellement c'était plein naturellement. Donc, la disposition de Pierre, c'était quand même cet acte inattendu qui l'a émerveillé, et quand il a ramené le filet était plein. Merci Seigneur, hein, parce que c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous, hein, plein de ceci, plein de cela ou autre chose. Ça, c'est la première chose. Dieu veut se servir de l'ordinaire pour nous révéler l'extraordinaire. La deuxième chose qui apparaît dans notre texte, c'est que Dieu nous plonge dans le grand bain de la mer. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, nous on sait bien ce que c'est, hein, ici, ne serait-ce que déjà l'ouverture de l'estuaire, hein, quand on regarde en face, ça fait quand même quelque chose. Quand on arrive là à Villers-Martin, alors là on voit l'océan à perte de vue. Je trouve que c'est toujours extraordinaire. Vous savez, il y a un tournant là, hein, à Villers-Martin, et là on voit, hein, c'est la pleine mer, c'est l'océan, hein. Et ça c'est quelque chose d'assez étonnant, ça. Mais le grand bain, c'est pas rester sur la plage, c'est pas rester sur le rivage du lac de Tibériade, ce n'est pas de se limiter là et bien dans une petite flaque d'eau d'eau salée, non, c'est pas ça, hein. Avance en pleno, il faut avoir le courage de le faire, parce que quelquefois nous sommes tellement timides. Nous sommes tellement timorés, et c'est le doute qui fait ça, ou voire peut-être plus grave encore, c'est l'incrédulité. Est-ce que Seigneur, tu peux le faire? Ben oui, mais Seigneur, il peut le faire. Maintenant, il ne fera que ce que nous croyons. C'est pas de voir, c'est de croire, et ensuite nous verrons se réaliser ce que nous avons cru. Il ne faut jamais oublier que les pêches miraculeuses et les grandes tempêtes se trouvent au même endroit. Eh oui, c'est curieux. Je me souviens d'avoir vu il y a quelques années un reportage sur les expéditions de pêche au crabe en Alaska. Peut-être que quelqu'un l'a vu. Alors, ce sont des hommes qui sont forts, hein, parce qu'il faut voir un peu, ils travaillent pendant 4-5 mois, là où il y a les grandes tempêtes, dans l'Atlantique Nord, ou dans le Pacifique, plutôt le Pacifique, parce que si on parle de l'Alaska, c'est le Pacifique, et ils se font beaucoup d'argent. Ils travaillent finalement 24 heures sur 24, c'est une saison. Et il nous montrait le travail qu'il faisait dans la tempête, dans le vent, dans véritablement des conditions inhumaines, épouvantables. Et ces gens viennent de tous les États-Unis pour être embauchés. Et véritablement, ils ont des salaires extraordinaires et des grosses bêtes, hein, qu'ils prennent. Hein, c'est des crabes. Et nous voyons que c'est au milieu justement de ces tempêtes qu'ils font des pêches miraculeuses. Et dans nos vies, si nous voulons voir l'extraordinaire, si nous voulons voir finalement des choses inédites qui nous surprennent, voire même qui nous émerveillent, parce que Dieu ne nous surprend pas, il nous émerveille, c'est encore autre chose. Eh bien, n'ayons pas peur quelquefois et ne redoutons pas qu'il y ait des tempêtes dans notre vie, que ça souffle fort, que nous sommes ballottés de droite et de gauche, que nous chavirons, que nous ne savons pas où nous en sommes rendus, nous avons le vertige et nous avons toutes sortes de malaises, et que c'est précisément dans ces moments-là que Dieu va se révéler d'une manière grandiose. Et c'est là où est la pêche miraculeuse. Moi, je le crois. Je le crois parce que on est quelquefois amené à vivre des choses, d'abord qu'on n'avait pas prévu, et puis ensuite, ça commence à tanguer un peu de tous les côtés, ça s'ouvre dans tous les sens. Mais moi, je crois que derrière tout cela, et je vous le dis parce que c'est ma foi, mais c'est aussi l'expérience que vous avez peut-être fait pour certains, que Dieu va peut-être vous proposer à un moment ou un autre dans votre vie. Mais une chose qui est certaine, c'est que si vous devez vivre ça, c'est que le Seigneur sait que vous allez vous en sortir. Autrement, il ne ferait pas. Ça, c'est sûr qu'il ne ferait pas. Et je me dis que quelque part, l'Esprit qui est en nous, la parole de Dieu qui nous enseigne, que tout simplement, eh bien, à travers le grand bain de la mer, grand bain de la vie, on pourrait peut-être dire, que ces pêches miraculeuses, eh bien, ont été précédées finalement de toutes ces agitations, de toutes ces confusions, de tous ces vagues, ces rouleaux qui viennent nous basculer, qui viennent nous bousculer de droite et de gauche. Et il n'y a pas de pêche miraculeuse quand il n'y a pas, souvent, auparavant, eh bien, ces grands vents, ces vents contraires, ces choses qui sont quelquefois très difficiles à vue humaine de vivre et de supporter, et surtout pas de les demander, parce que on n'a pas besoin de les demander, ça vient tout seul, de toute façon. Les grandes tempêtes, parce qu'elles se trouvent au même endroit. Il y a peut-être des chrétiens qui disent, ah ben Seigneur, tu me bénis, tu me fais faire des grandes expériences, puis finalement, ils veulent pas avancer hein, en pleine eau. Ils veulent rester sur le rivage, ils se disent, bah Seigneur, voilà, j'ai tellement envie de voir un miracle, mais ils sont pas prêts à vivre l'expérience qui précède. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la Bible, à plusieurs endroits, que tout ça, les pêches miraculeuses, se trouvent au même endroit que les tempêtes de la vie. Et après, quand on en sort, on se dit, Seigneur, ah, extraordinaire. Et c'est souvent des grandes avancées que nous faisons dans notre vie spirituelle. Ouais, on avance, parce qu'on demande souvent, Seigneur, fais-moi grandir dans ma foi, fais-moi avancer, permets que ma vie spirituelle soit cette structure, que je connaisse encore davantage, que j'expérimente ta grâce, ton amour et ta fidélité. Mais on oublie de penser à ce moment-là que c'est pas toujours facile. Hein. J'abandonne entre tes mains, vous connaissez le cantique. Mais quand on a commencé à chanter ce cantique et qu'on s'aperçoit que ça nous échappe dans nos mains, on dit Seigneur, vas-y doucement parce que je suis fragile. Hein. Ne va pas trop fort. Alors vous vous souviendrez que les grandes tempêtes eh bien, augurent des grandes pêches miraculeuses. Ouais, ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est la Bible qui nous l'enseigne. Vouloir l'une, la pêche miraculeuse, la grande bénédiction, c'est aussi accepter c'est aussi accepter l'autre. Ça, les plans sont définis. Parce que il n'y a pas, mes amis, de bénéfice sans risque. C'est ça, il n'y a pas de bénéfice sans risque. Vous savez, dans le monde dans lequel on est, il y a des gens, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise ou les boursicoteurs, enfin ceux qui finalement vivent de la bourse, ben, ils sont toujours obligés de mettre une, il y a une mise de fonds, vous comprenez, hein, soit hypothéquer leur maison, voilà, il y a toutes sortes de choses à faire. Donc ils risquent. Et la foi, c'est une prise de risque. Mais où nous sommes assurés à 100% que si véritablement nous allons jusqu'au bout, mais c'est pas les hommes qui vont nous récompenser, c'est Dieu qui va honorer notre foi. Et là, notre barque risque d'être pleine, nos filets risquent de craquer d'abondance. C'est formidable ça, moi hein, ouais, ça me semble extraordinaire. Le troisième point, donc le premier, que Dieu se sert de l'ordinaire pour nous révéler l'extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'il nous plonge dans le grand bain, et vous avez compris, on l'a expliqué. Et puis la troisième chose, c'est tout simplement la joie et l'allégresse du miracle. Eh oui, la foi, elle n'est pas faite pour nous faire pleurer. La foi est faite pour nous réjouir et nous faire tressaillir. Ouais. Alors on voit que là, il y a eu un petit défaut chez Pierre parce qu'il a eu une grande frayeur. Hein, Pour un homme qui avait l'habitude du plancher des bateaux, parce que c'était quand même un homme qui avait probablement quelques années d'expérience sur le lac, hein. Et le lac, c'est pas la mer. Bon, c'est peut-être un peu plus calme, mais enfin, quand les vents soufflent des montagnes de Galilée, ça doit s'engouffrer et ça doit certainement, quelquefois, être assez tumultueux. Donc, la joie et l'allégresse de recevoir l'exaucement. Ça vous est arrivé d'être exaucé au moins une petite fois dans votre vie, non? Bon. Alors, si on pleure, on pleure de joie. Moi, ça m'est arrivé, bon, comme tout à chacun, et de dire, mais Seigneur, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est vrai, hein? C'est vrai? Ouais, vous allez me faire pleurer. Eh oui, mais c'est vrai que on a eu des choses, des attentes. On a pleuré pour avoir quelque chose. Et quand ça arrive, et ça arrive pas au moment qu'on le pense, ça arrive pas quand on dit Seigneur, c'est le moment, ça arrive d'une manière inattendue, hein. Et quelquefois au dernier moment, quand on pense que tout est perdu. Et là, à ce moment-là, on est envahi d'un profond bonheur, une joie, l'allégresse. Ça, c'est magnifique, parce que nous avons été bénis. Pierre a été béni d'abondance. Je dis bien. C'est pas deux ou trois sardines. Enfin, excusez-moi, ça me donnerait qu'il y aurait des sardines dans le lac de Tibériade, hein, parce que ça manque de sel. Mais toujours est-il que c'était pas trois petits poissons, hein. La nuit, ils avaient fait zéro pêche. Jésus monte dans la barque, et là, c'est extraordinaire. C'est formidable. Écoutez bien. Ils remplirent deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Une plus deux, ça fait trois, quatre. J'ai des difficultés en mathématiques, mais bon. Au point qu'elles s'enfonçaient, la première allait véritablement peut-être passer par le fond, et les deux autres, eh bien, vont ramasser et elles s'enfoncent. Dieu, par l'expérience de notre foi et de notre obéissance, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dissocier la foi et l'obéissance. Quelqu'un qui dit « j'ai la foi », mais qui, quelque part, ne veut pas mettre en marche, eh bien, son ressenti de foi, sa confiance affirmée, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ce sont des mots vides, c'est de la vanité. Eh bien, Dieu avait prévu pour Pierre et pour ses compagnons. Parce que quand l'un est béni, les autres sont bénis aussi. Quand un homme est béni ou une femme est bénie dans l'Église, moi je pense que ça doit bénéficier aussi à tout le monde. Eh oui! D'ailleurs, si nous sommes là ce soir, c'est parce que bon, non seulement nous rencontrons le Seigneur, nous rencontrons sa parole, nous entendons sa parole, mais c'est toujours une bénédiction. Moi, j'apprécie que dans l'église de Saint-Nazaire, eh bien, on se salue avant et on se salue après. Et on fait la causette. Et pendant ce temps-là, le pasteur pourra attendre, il attend pour fermer les portes. Hein? Mais j'ai ma petite technique, et je passe derrière et je ferme les lumières. Et là, tout le monde s'en va. Oh, qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Je suis en train de dévoiler là, mais... Oh non, excusez-moi, hein, mais c'est pas dans le... Bon, enfin, je m'égare. Mais bon, toujours est-il que Dieu avait prévu une bénédiction d'abondance, finalement, pour Pierre et ses compagnons, d'un plus grand miracle. Il s'était limité à une barque. Il y en avait pour tout le monde. Et là, ils devaient dire, mais c'est extraordinaire. On va faire la recette de l'année. Hein? Voilà, il fallait peut-être un mois pour avoir tout ça, mais là, c'était formidable. Mais il y a un but dans tout ça. Il y a un but. C'est que Jésus a en vue, et il ne l'avait pas dit avant, il n'avait prévenu ni Pierre ni ses compagnons, mais Jésus avait un but de transformer la vie de ces hommes-là. Et transformer la vie de ces hommes-là, c'était qu'il voulait qu'ils deviennent non des pêcheurs de poissons, mais d'âmes. Ouais. D'âme, c'est-à-dire que c'est des hommes, c'est l'humanité, c'était tout simplement eh bien, leur semblable. Vous rendez compte la pédagogie, l'appel, la vocation, la manière dont Jésus va s'y prendre, des hommes au cœur même de leur activité, pour les amener finalement à être ses disciples et des apôtres. Et c'est quelque chose, et vous avez remarqué quand Jésus nous parle du berger, il se dit lui-même le bon berger, et il s'adresse au berger d'Israël. Quand il parle de toutes sortes d'autres situations, le semeur, mais lui-même est le semeur. Venez et suivez-moi, vous allez semer, et il y aura naturellement eh bien, des bergers pour les brebis, Et il y aura également, eh bien là, pour ceux qui sèment, eh bien il y aura des moissons. Il y aura des pêches miraculeuses, parce qu'il appelle finalement les pêcheurs de poissons, devenir des pêcheurs d'âmes. C'est une vocation et c'est une ouverture à de nouveaux horizons. Comment se fait-il? Comment s'est-il fait que nous nous soyons tournés vers le Seigneur que lorsqu'il nous a appelés? Dans quelles circonstances? Dans votre vie professionnelle, dans une vie difficile, auprès d'une rupture, peut-être après une rupture, ou en voie d'une rupture dans vos sentiments, dans toutes sortes de choses, peut-être des gros problèmes avec vos enfants? Vous pensiez que votre barque allait couler à ce moment-là? Le Seigneur nous a pris dans une circonstance tout à fait particulière et il nous a ouvert de nouveaux horizons que nous n'aurions jamais soupçonnés. Moi, on m'aurait dit à 17 ans que finalement, eh bien, je deviendrais chrétien autrement que ce que le chrétien que j'étais. On m'aurait dit que, voilà, j'allais vivre une formidable aventure avec le Seigneur, que un jour je serais pasteur, berger. C'était pas du tout le Seigneur m'a saisi. Il nous est dit que Paul a vécu cette expérience, il est dit, mais le Seigneur m'a saisi. Et le Seigneur nous a saisis les uns et les autres. Et pour certains, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans que vous êtes chrétien. Peut-être plus, je ne sais pas. Et ce sont de nouveaux horizons. Moi, ma vie, elle n'était pas prête. Elle n'était pas orientée dans ce sens-là. Hein. Un respect de Dieu, ça c'est sûr. Mais impliqué dans un engagement pastoral, ça c'était peut-être autre chose. Bien que il y avait tout un mélange à l'intérieur de moi-même. Hein. Ça c'est possible. Et des horizons spirituels. Et ça, ça nous a marqué. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes encore là. Parce que nous avons fait confiance, nous avons jeté nos filets. Il y a eu des tempêtes. Nous avons vu déjà des pêches miraculeuses. Il y a eu un appel pour ceci, pour cela. Alors, je crois qu'il faut oser. Oser et avoir l'audace de jeter nos filets. J'aimerais dire encore quelques mots sur notre méditation ce soir. On a parlé de pêcheurs de poissons et on peut peut-être parler maintenant de la vocation de Pierre et de ses compagnons. Hein? Jean et Jacques, c'était ses coéquipiers dans ce métier sur les bords du lac. Pêcheurs d'âmes. Premièrement, ils étaient pêcheurs de poissons dans leur vie courante. Mais pour nous dire que Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Et c'est vrai quelquefois il y a des surprises. Il y a des surprises parce que le Seigneur ne fait pas de sélection de ceci, cela, c'est un homme bien, brave, religieux, hein, voilà, toute sa vie, il les a passés en bonne action. Ce qui est extraordinaire, c'est que quelquefois, Dieu va chercher des brigands et des bandits, des prostituées, des gens où on ne mettrait pas, hein, finalement, hein, on ne donnerait pas confiance en disant, mais regardez, hey, vous savez que le Seigneur va chercher même dans les prisons, hein, et des gens qui se convertissent. Hein. Ah oui, c'est extraordinaire. Il va chercher des proxénètes. Il va chercher des gens qui font du trafic en tout genre, d'une manière ou d'une autre. Il va chercher des dealers, enfin, des trafiquants de drogue, etc., etc. Il vient nous chercher là où nous sommes. Parce que si quelqu'un connaît bien notre cœur et notre vie, et il connaît bien notre avenir, eh bien, c'est lui. Nous, on se connaît pas nous-mêmes, d'ailleurs. Hein. Et il vient nous chercher souvent dans nos tempêtes, dans nos faillites et dans nos essais, dans nos échecs. Souvenez-vous, Pierre avait pêché toute la nuit, il va le dire, nous n'avons rien pris. Qu'est-ce que tu viens de déranger encore? Moi, j'ai envie de dormir, hein, Jésus. Il vient nous chercher dans nos échecs. Travailler toute la nuit, sans rien. Sans rien. Et vous savez, la vie sans Dieu, c'est une vie sans rien. C'est une vie qui est vaine. C'est une vie qui a peut-être toutes ses illusions, toutes ses appétits, toutes ses folies. Et c'est une vie sans rien. Et là, on voit que Jésus avait vu que Pierre, Jacques et Jean, il y avait quelque chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont devenus des pêcheurs d'âmes. Donc, ils ont dû quitter leur travail. Ils ont dû laisser leur barque, leur entreprise, pour suivre un aventurier. Et c'est pas trop, non, de dire ça de Jésus, que Jésus est un aventurier. Il est l'aventurier de la vie et de la foi. Et ça, fallait quand même quelque chose quand on sait que... Vous savez que Pierre était marié? Vous avez connu sa femme, non? Non? Bon, peu importe. Il n'était pas célibataire. Et bon, je le dis, mais un jour, on va me mettre au bûcher. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il était marié, il avait une belle-mère. Donc, quand on a une belle-mère, normalement, on est marié. Enfin, dans le cas le plus naturel, hein, ça c'est sûr. Alors quand on dit que Pierre est le chef de l'Église, etc., etc., et puis décret du célibat des prêtres, bon, voilà. Enfin bon, je veux pas aller trop loin parce que ça commence à me brûler. Mais toujours est-il que, bon, vous avez compris, hein. Devenu pécheur d'âme, pécheur d'homme, qui ont une âme à l'intérieur, comme chaque créature sur la terre a une âme naturellement. Alors, pour cela, je lis un texte, il est tout simple, hein, mais on va voir que leur début, c'était de suivre Jésus, de lui faire confiance. Donc, abandonner leur travail, et puis, voilà. Donc, ça supposait un grand sacrifice. Grand sacrifice. Écoutez dans Marc, chapitre 16, verset 19. Écoutez bien, c'est la fin de l'évangile de Marc. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, on est là, après la résurrection de Jésus. Et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'était assis dans la barque de Pierre. Maintenant, ça c'est la terre, mais là, il s'est assis dans la droite de Dieu, dans le ciel, Jésus. Et il est vivant. Il est là. Il est au milieu de nous ce soir. Et encore mieux, il est en nous. Alors, les disciples s'en allèrent partout prêcher. Ils avaient entendu? Tu seras un pécheur d'âme. Alors, ils s'en allèrent prêcher partout. Et voilà, confirmation, miracle permanent, à travers 20 siècles de christianisme évangélique. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole qu'il donnait par des signes, des miracles, des prodiges qui l'accompagnaient. C'est formidable, ça. Extraordinaire, hein. Voilà. Et ça, c'est un formidable retour. Et si on fait le retour un peu plus complet, dans le même texte, Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'était leur but. C'était pas de jeter des filets d'une barque dans la mer, c'était tout simplement eh bien, une autre forme de pêche, non pas avec des filets, mais avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ou au cœur de cette parole, c'est Jésus-Christ, que l'on découvre par la foi dans la parole qui nous est annoncée. La bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pas d'être baptisé qui fait le salut, c'est la foi. On est bien d'accord. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoutez bien, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Prêchez l'évangile et vous verrez que Dieu va agir. Ça ne repose pas uniquement sur le pasteur ou le prédicateur, ça repose sur vous qui entendez la parole. Et si vous faites confiance au Seigneur, ben le Seigneur va remplir vos filets. Et ça, c'est important. Allez et faites ce qui est préparé. Il nous est dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour les... Il a préparé pour nous de bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, vous le connaissez. Et le Seigneur travaillait avec eux. Confirmer sa parole. Vous savez, le jour où une église évangélique s'entend, a remplacé la parole par toute autre chose, il ne faut pas s'attendre à voir les miracles. Pas du tout. Et nous sommes dans un monde où la foi diminue de plus en plus, s'amenuise de plus en plus. Et si ça s'amenuise de plus en plus, c'est que le christianisme, sous toutes ses formes, ne prêche plus la parole de Jésus. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, et pas d'un orateur, non pas d'un prédicateur avec de grands talents. Non, c'est la parole de Dieu. Troisième chose avant de terminer. Pierre et ses compagnons sont devenus des témoins, pas de Jéhovah, hein, mais de Jésus, et des ambassadeurs du royaume de Jésus-Christ, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Et dans Actes, chapitre 4, il est donné quelque chose de formidable. On va le revoir ensemble, on va le relire. Actes, chapitre 4, verset 13. Alors, ils sont partis, Pierre, Jacques et puis les autres. Hein, ils étaient d'abord au départ 12, et puis après, ils ont été 70. Et puis, aujourd'hui, le monde entier, une grande partie du monde entier, croient en Jésus. Alors, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, les deux dont nous avons parlé tout à l'heure, ils furent étonnés. Hein, ce sont les gens, là, les hommes qui sont à Jérusalem. Ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Des pêcheurs. Mais des pêcheurs de poissons. Alors, on n'a pas besoin de faire Polytechnique ou les grandes écoles. À l'époque, il aurait pu faire peut-être le Sanhédrin, enfin les grandes écoles théologiques. Non, c'était des simples Galiléens qui vivaient de leur pêche misérablement ou petitement, disons, hein, peut-être petitement. Hein, ça sera peut-être plus approprié. Et quand les gens de Jérusalem incrédules, ils ont été étonnés. Ils ont reconnu que ces hommes qui avaient été envoyés par Jésus, c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était pas des érudits. Hein. Et écoutez bien la suite. Et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Un véritable chrétien, c'est celui qui vit avec Jésus, qui suit Jésus, qui croit en Jésus et qui obéit à Jésus. On peut pas dire autrement. Hein. Ils les reconnurent. Un vrai chrétien, c'est un chrétien christocentrique. C'est-à-dire qu'il n'y a que Christ. Un chrétien peut porter différents noms, appartenir à différentes dénominations. Mais un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Pierre, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Repentance. Ensuite, acceptation de Jésus, reconnaissance de Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Hein. Et puis ensuite, une vie nouvelle. On va en toucher deux mots pour terminer. Rempli du Saint-Esprit. Il nous est dit que Pierre et un autre, je crois, je ne me souviens plus, il nous est dit qu'ils étaient des hommes de foi et remplis de l'Esprit. Voilà. Maintenant, c'est unique, c'est Jésus. Certains disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont chrétiens partagés, parce que c'est un coup, peut-être Marie ou un saint, une sainte, etc. La dévotion, ça c'est la dévotion religieuse. Mais un chrétien de l'évangile, qu'on appelle un chrétien évangélique, c'est-à-dire s'inspire de l'évangile, de la personne qui est le centre de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Alors, témoins ambassadeurs, et vous avez remarqué, ils avaient vu chez Pierre et Jean, ils les reconnurent comme étant avoir été avec Jésus. On ne peut pas être dans la présence de Jésus, connaître Jésus, se nourrir de sa parole, avoir foi en Jésus, sans que ça nous laisse des traces. Sans que ça laisse un bénéfice et une bénédiction pour les autres. Témoignage chrétien, tout simplement, qui a bouleversé le monde. À un moment donné, il nous est dit, plus loin dans le livre des Actes, il nous est dit que, en parlant des chrétiens, ce sont des hommes qui ont bouleversé le monde entier. Et c'est vrai. Rien à voir avec les religions comme le bouddhisme, l'islam, et puis il y a d'autres religions. Bouleverser le monde entier par la parole prêchée. La parole annoncée, aller par tout le monde et annoncer la parole. Et surtout, et je termine pour ça, et surtout puisqu'ils se sont fait reconnaître comme ayant été en présence de Jésus, comme ayant été avec Jésus. C'est tout simplement ressembler au maître. Un disciple ressemble à son maître. Un disciple ne prend pas la coloration d'une religion, d'une étiquette, d'une appellation, d'une dénomination religieuse soit-elle, chrétienne soit-elle. Non, c'est véritablement ressembler au maître qui appelle comme il l'a fait pour Pierre, pour ses compagnons, et qui envoie, on l'a vu, à travers Marc chapitre 16. Et à son image, à son image. Écoutez, je termine avec une dernière citation. Quand il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7, il est dit ceci, mais avant d'être à l'image de Jésus, il faut une préparation. Il nous est dit, c'est là qui fait votre joie. Quoique maintenant, il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Tiens, ça ressemble à un four. Ça ressemble à une fournaise, tout ça. Afin, et c'est là ce que je veux dire, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Et là, on reconnaîtra que nous sommes ses ambassadeurs et ses disciples, parce que nous porterons l'image tout simplement du maître. Je voudrais simplement terminer par une petite histoire. Vous vous endormez pas, là, ça va? Pour vous réveiller. Vous l'avez déjà entendu, probablement sous d'autres formes. mais vous donnez le processus de raffinement de l'argent. L'argent, ce n'est pas les billets, hein, c'est l'argent. Voilà, le métal. Il y avait un jour une dame, probablement de distinction, qui s'est rendue tout simplement chez un orfèvre réputé dans une certaine ville, un certain pays, pour voir comment cet homme travaillait l'argent. Comment il faisait pour, eh bien, tout simplement le mettre là, le plus pur possible, pour après, finalement, le décliner dans toutes sortes de façons. On peut dire ça comme ça. Alors, le maître orfèvre a pris une pièce d'argent, un morceau d'argent, on peut dire, qu'il a mis tout simplement au-dessus du feu. Il y avait là une fournaise. Et il a expliqué à cette dame qui lui posait des questions, elle était venue pour ça d'ailleurs, il expliqua que pour raffiner l'argent, il faut que celui qui est l'artisan, enfin le maître orfèvre, il faut tenir la pièce bien au milieu de la flamme, un petit peu au-dessus, et rester là comme ça, le temps qui est nécessaire, tout simplement, et pour en consommer les impuretés. Alors bon, il va y avoir certainement tout un processus hein, pour que les scories, tout ça, eh bien, s'en aillent. Alors la fameuse dame lui a posé cette question suivante, c'était ce qu'elle voulait savoir. Comment savez-vous quand l'argent est complètement épuré? Et vous savez ce qu'il lui a répondu? Et ça je pense que c'est l'image, c'est l'enseignement que nous avons, nous chrétiens, par rapport à notre maître, par rapport à celui qui nous a sauvés, par rapport à celui qui est le Seigneur de notre vie. Alors tout simplement, comment vous pouvez me dire que c'est prêt? Que là, eh bien, c'est véritablement de l'argent pur. L'orfèvre de lui répondre simplement, mais madame, c'est très facile. Lorsque je vois mon image se refléter dans l'argent, alors je sais que l'opération de raffinage est terminée quand je vois mon image. Eh bien, quand nous voyons Jésus, et quand nous voyons notre image et que nous sommes au plus proche de la ressemblance de Jésus, et nous en sommes loin, eh bien, c'est là où commençons le raffinement ou le raffinage tout simplement de notre personnalité, de notre service, de notre vocation, de notre appel. Et croyez bien que le Seigneur, quand il monte dans notre barque, qu'il nous dit d'aller en pleine eau et qu'il montre finalement les signes de sa puissance en nous faisant toucher du doigt les pêches miraculeuses, qu'il nous envoie aller prêcher, apporter le témoignage autour de vous, à ce moment-là, au fur et à mesure, eh bien, nous devenons non seulement ses disciples, mais nous devenons ses amis, nous devenons ses enfants et nous sommes rendus semblables à lui-même. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce, mais n'ayez pas peur de jeter, non pas votre filet, mais de jeter les filets, parce que le Seigneur a de grands projets pour chacun d'entre nous. On va prier. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, parce qu'en effet, Seigneur, moi je crois que chacun d'entre nous, un jour tu nous as appelés, tu nous appelles tous les jours. Et puis il y a nos amis peut-être qui nous rejoignent ce soir, qui sont là, et qui sont peut-être avec une aspiration profonde de s'approcher de Jésus. Un besoin de vérité, de pureté, un besoin de grâce particulière. Eh bien Seigneur, je te demande Père éternel que tu leur rappelles ces paroles, d'avancer en pleine eau, de ne pas avoir à craindre la tempête et les vagues. Et ainsi, Seigneur, de t'obéir, parce que foi et obéissance, ça va ensemble. Et là, à ce moment-là, nous allons simplement prendre conscience que nous sommes indignes, comme Pierre l'a réalisé. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Je suis un homme qui, parfois, fait le mal, ou souvent. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu continues à nous appeler, parce que tu t'arrêtes pas sur nos péchés, tu les pardonnes. Et tu nous dis tout simplement, eh bien maintenant, après avoir été des pêcheurs de poissons ou des pêcheurs tout simplement de péché, eh bien nous devenons des pêcheurs d'âmes. Alors Seigneur, tu bénis ta parole, tu fais du bien. Et que cette parole soit un appel à des vocations, un appel à servir, et puis un appel, Seigneur, à la sanctification. Parce que nous croyons que plus nous allons, eh bien il faut que l'argent soit rendu pur. Il faut que nous puissions nous voir dans ta parole. Il faut que nous puissions te voir par la foi dans ce que tu es, dans ton tempérament, dans ton caractère, dans tes vertus, dans ta perfection, Seigneur. Et nous te bénissons et nous te remercions parce que Cette même parole nous dit que lorsque nous serons de l'autre côté, c'est-à-dire en haut, pas en bas, eh bien nous verrons Jésus face à face. Et là, nous serons rendus semblables à lui. Tu bénis ta parole ce soir, tu sauves des âmes, tu donnes et tu répands ton pardon, et tu fais en sorte, Seigneur, que ta voix soit entendue, cœur, âme et esprit dans nos consciences, et que nous puissions dire sur ta parole, Seigneur, je jetterai mon filet, je jetterai mes filets, Seigneur, et toi tu vas les remplir. Amen.
Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.